Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs, amis à l'écoute, bonjour. Il est temps pour nous de parler Bana Okapi. La République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire majeure avec des conflits récurrents dans l'est du pays qui entraînent de conséquences désastreuses sur l'éducation des enfants. Selon le Cluster Education, près de 900 000 enfants âgés de 6 à 17 ans sont privés d'école en raison des affrontements. La province du Nord Kivu est particulièrement touchée avec près de 1 000 écoles primaires fermées. Face à cette situation alarmante, l'enseignement à distance pourrait-elle être une alternative pour garantir l'accès à l'éducation aux enfants déplacés? La RDC a déjà expérimenté l'enseignement à distance par le passé, notamment pendant la pandémie de Covid-19, avec des cours diffusés à la télévision et à la radio. Cette expérience a démontré la faisabilité et l'utilité de cette approche pour atteindre un large public, même dans des situations de crise. Plus récemment, en janvier 2024, un programme d'enseignement à distance a été mis en place à Boulingo, près de Goma, avec le soutien du gouvernement norvégien. Plus de 9400 enfants déplacés ont ainsi pu bénéficier d'une éducation à distance, ce qui témoigne de l'engagement des autorités et des partenaires internationaux en faveur de cette solution. Le magazine Bana Okapi ouvre le débat sur cette question essentielle. L'enseignement à distance est-il une alternative viable et durable pour permettre aux enfants déplacés de continuer à apprendre et à se construire un avenir? Cette question mérite d'être posée et explorée en tenant compte des défis et des opportunités liées à cette approche. Sarah Sumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Christian Mapenda Nouyakris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijana. Radio Okapi. Les amoureux de Bana Okapi, ce magazine prend son envol à Bunia, où Ezekiel Mouzali y rencontre quelques enfants déplacés. Ces enfants nous parlent de leur désir d'étudier, des contextes dans lesquels ils ont abandonné les études. Suivant ce son qui est en swahili.
Je suis un peu plus jeune. Bonjour.
Oui, bonjour.
Tu n'as qu'on a ni na.
Espoir.
Espoir, on a quoi pas mambo ni.
Oui. Ma vie kaka. Ma vie.
Pourquoi on a sommé à Bimbe?
Oui. Mungwal.
Pourquoi on a sommé à Mungwal? Comment ça m'a
dit? Bemu.
Hein?
Bemu.
Bemu, et puis Bemu. Ça, qui tu gagnes là, tu as ma son.
Bon, les deux.
Pourquoi on a peine à qui tu gagnes là, ma son?
Mais, qui tu vas le plus?
Il y a mis vie, les grands, comme mon gars, et tu ne verras jamais. Mais, Emina, c'est ma médianja. Il shake a pas mon banane. Mais, Emina, il shake mon banane. Et portail de famille. Ami est pas le grand, et si que même sur le milieu, mais ne gimbia, mamba, il est même ne gimbia, mamba famille. Après, pas le goufiga, mina goutana barafigia, domina jacbala bala, la la inge.
Qui te gagne tout le monde à ma somme?
Ma somme, quoi, tu as ma somme? Bazazi yangu njo papa yangu alianjaka kulewalewa ofi ofi njo kwa jida ene anja pika siye njo mina kimbia kwetu kwa jida ene
kitu gani ulikuwa napenda sasa ulikuwa nasoma ulikuwa napenda kitu gani masomo
kumasomo mimi kumasomo mimi napenda mimi kwanja mimi soma kwanja kumaliza masomo yangu ifole mimi kwa wanja wanja daktari kwanja kumaisha yangu. Et je me suis dit, mais je vais vous dire que maintenant, je pas.
Vous venez d'écouter ces quelques enfants de placés de la ville de Bounia qui expliquent les contextes dans lesquels ils ont abandonné les études. Certains disent avoir été refoulés par leur famille, d'autres se retrouvent en situation de déplacement en raison de l'insécurité dans leur milieu d'origine. Ces enfants drogués, bien qu'ils se retrouvent encore en état d'ivresse, gardent encore à l'esprit l'importance d'aller à l'école. Parmi eux, il y a un d'ailleurs qui avait l'ambition de devenir docteur dans sa vie. Mais cela n'a pas été possible à cause de sa famille qui, selon lui, n'a pas assuré son éducation.
Okapi, Metabendi Yamani.
Les amis de Bana Okapi, après avoir écouté les enfants, Radio Okapi donne la parole aux parents. Cet élément que vous allez suivre, une mère de famille exprime son ressenti quand elle voit ses enfants déplacés déambuler dans les rues de Bounia. Elle est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Maman, vile jambo.
Jambo sana.
Jina yangu nani mama?
Jina yangu ni Mungura Monustra Jislen.
Okay. Asa mama, unawaza ya kwamba kwa kuona watoto wakimbizi wanaangaika kubalabala. Uwe sagisi mama, unajisikia kwanza namuna gani? Watoto wasome, wanaangaika kubalabala pa kubunia. Uwe sagisi muzazi, unajisikia kana namuna jambo?
Mese journaliste, iko maneno uchungu sana. Kuona batoto gizi biko natembea kubarabara, batoto banakosa fazi ya kulala, batoto banakosa kitu wa kukula, batoto habasomi. Kabisa mie saa muzazi, nina onaka bale batoto sani batoto wangu, njo biko nalala inje na batoto wangu, njo biko nalala junabu, balikuwa na bazazi yao. Leo bazazi bashaka kufa, bengine habayua adrese ya bazazi, anajiretuve kubarabara. Iko maneno ya uchungu sana.
Sasa wewe unafikiri ya kwamba haki ya watoto na inakuwa iko viole yani haiheshimike ku mwingine yetu ya Ituri.
Bae droit ya watoto iko viole kunivyo ya yulu sana. Mie gizi muzazi, mie sa muzazi ni naona ke droit ya watoto iko viole. Haba jali tena droit ya watoto. Juu ingekuwa biko na ijali kama leo watoto hatuko na baona ku barabara. Kama kila mtu iko na uzuni na ikue sheria, ikue leta yetu, kama iko naona ile maneno, anajio preokipe nae sana kushindia kila kitu. Juu, kama tuku naona ke droabo iko viole. Droabo iko viole kunivo, kusapursa tuneza sema nuanante, omwe nonasengi. Juu, haiko respecte kuprovence yetu.
Na kama unasema iko respecte, unasema ni madroa gani za watoto ambazo ziko viole?
Droit à vos droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la nutrition. Ju ukiona gizi mtoto konakula kubalabala, na wewe peke utaona uchungu. Mtoto konakula kitu yenyewe, wewe mtu mkubwa. Na wewe ulikuwa tu mtoto sawa yeye. we ulitupa ya ulio nao haina maana, haina faida ya kuikula. Mewe unaitupa. Na we udruwake ya kusoma iko viole. Juna we mwenye leo huko mzuri, juna we ulikuwa mtoto, ulisomaka, meye leo haiko nasoma. Manake udruwake preske sirsa pursa druwake iko viole.
Na unaona ya kwamba isike shule, masomo inakuwa na faida kumaisha ya mtoto, yani na kumaisha ya jamaa mzima.
Ndiyo, masomo iko faida, masomo njua venira yake ya kesho. Leo kama mwenye anaitwa deputy, anaitwa president, naye alikuwa alisomaka, naye alikuwa tu mtoto alienda kumasomo, njo leo naye alikuwa kule hali. Maneno kama leo huyu mwenye leo tuko na mzarao, na sisi wote tulikuwa tu sawa yeye, me tulipataka ile neema. Sasa iko uchungu juu apate ile neema ya kwenda kumasomo, maneno tuna avenir yake inaribika, kesho yake inaribika, hana maana kufamii, hana maana kusociete, hana maana, hana maana meme ku province au ku pays yetu.
Na unaweza kwamba hii ma déplacement yote ambayo tunakonetre ku Ituri, watu wanakimbia juu ya vita, ha, unaweza kama ile ma déplacement yote inakuwa na impact, yani na affecter esprit, yani psychologie ya mtoto.
Ndio ina affecter juu kila wakati mtoto uko naona batu banatoka oku banapita, manake ile iko naharibisha kwa psikolojia yake. Mtoto kunakuwa traumatize, mtoto kunakosa position juu enye ya anatoka Sibir, anazani kula anatoka anakia pata repo, kwenye iko tena anona ingine déplacement, manake mtoto takuwa trouble psikolojia yake, haitakuwa normal. Ndio
sasa unafikiri ya kwamba mafunzo ya distance, soit programme moyen ku radio ya kufundisha batoto, inaweza kuwa na maana quand même ku wale ambao walikatishwa masomo na kujikuta kwa wale ukimbizi juu ya vita?
Ndiyo, inaweza kuwa na maana wakati biko na isikiliza. Unayua journaliste mai ku pedagogie banafundishaka surtout batoto benye bangali mu age ya chini. Mtoto anajadapta kana mwalimu wake, na anayuaka tonalitea mwalimu wake, anamusikilizaka vile na maana. Sasa wakati tuko natia batoto etu, kweli vaneza sikia ile wa asenyuma ali, vaneza sikia huku maradio, aneza jiretruve, mewezi jiretruve sapursa. Juu mwenye kuna fundisha, haiko mwenye anazoeshana naye, haiko mwenye aneza mufasiria. Juba natemaka kupedagoji na jeste ya ansenya, iko edikasyo kumutoto. Ndiyo.
Sasa eske we unakamataka mema disposition, paske bon, unayua mwai hali ya vita, watoto mingi walikatishwa briskema kuwenda kumasomo. Me eske we ma disposition fulani enye usha kamata, par exemple, soit kununua radio, kukonekte radio, kuprogramme mwa fulani kwa jila kusaidia mtoto kamem, bienke haende kumasomo, me iko na beneficie na ka instruksyo mwa kidogo, ka mafunzo mwa kidogo.
Ndiyo, ile kabisa iko ya maana sana. Ile programme ile iko, na radio iko, enye batoto banafataka naye mafunzo saa yote. Ndiyo, ile kwanza iko.
Na mesaje gani itasema na bazazi yote ingine, na hata kubali wenye, manakuwa na jukumu ya kulinda haki ya batoto.
Ndiyo, kabisa kenye mia inaweza sema na wazazi tuwakadre batoto wetu. Ukipata neema hata mtoto wa vaze, hata ule mtoto wa mkimbizi, ukimwona kama uko na moyo kumwakadre kwako, na kumwakadre kubakurdi sware yenye tunatrenaka naye batoto wetu kumungine, naye umwakadre juu kesho samwa yenje anaweza kuwa mkubwa wa kudirije nchi yetu.
Merci. Merci.
Merci.
Cette femme que vous venez de suivre dit que voir les enfants dans les rues lui fait très mal en tant que mère de famille. Ses enfants qu'elle considère comme ses propres enfants n'étudient pas, ne mangent pas, bref, vivent dans des conditions mauvaises. Elle poursuit en disant que leurs droits sont violés. Pour elle, l'école constitue l'avenir des enfants, mais déjà voir les enfants errer dans les rues est une violation flagrante de leurs droits. Cette mère de famille estime que le gouvernement devrait prendre des dispositions pour permettre à ses enfants d'avoir accès à une bonne éducation. Dans ce contexte d'insécurité dans l'est du pays, des milliers d'enfants ne vont plus à l'école. Cette mère, elle, dit avoir déjà pris des dispositions pour permettre à ses enfants de suivre des enseignements à distance.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Restons toujours à Bunia et cette fois-ci pour entendre l'avis d'un père. Pour ce père de famille, voir les enfants déplacés vivre dans les rues sans pouvoir étudier est une grave violation de leurs droits. Il s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Je suis parent à Bunia et j'ai un enfant ici à Bunia.
Qu'est-ce que vous ressentez en voyant les enfants déplacés, errer dans les rues de Bunia? Vous vous sentez comment?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, présentement, comme parent, quand je vois les enfants en train d'errer dans la rue, c'est d'abord une situation qui me touche au cœur. Ce sont des êtres qu'il faut protéger. Ce sont nos enfants. Nous, comme Congolais, quand nous voyons nos enfants congolais errer dans la rue, c'est alarmant. Et cette situation leur arrive, c'est à la suite de conflits armés qui se voient par-ci par-là à l'est de la République démocratique du Congo.
Mais est-ce que vous estimez que les droits des enfants, surtout les enfants déplacés, sont violés ici dans la province?
Pour ce qui est des droits de l'enfant ici à l'est de la RDC d'abord et en République démocratique du Congo en général, si nous voyons les droits de l'enfant, on déclare sans réserve que le droit de ces enfants est violé. Pourquoi? C'est parce que les enfants qui sont en train de à cause d'être forcés, donc on a forcé les familles de quitter leurs milieux respectifs pour se retrouver à des endroits où ils peuvent se sentir un peu plus sécurisés, leurs conditions de vie changent directement. Et souvent, quand on voit dans des milliers de... dans les camps de déplacés où les conditions de vie sont vraiment précaires, là, certains parents qui avaient de moyens, par exemple, de scolariser leurs enfants se retrouvent dans l'incapacité à pouvoir supporter les études des enfants. Et là, l'enfant n'a plus accès à l'éducation. C'est déjà violer son droit à l'éducation.
Il y a d'autres
qui ne trouvent pas les parents, des familles qui sont incapables de faire survivre toute la famille en général. Et quand directement la situation change, ça se répercute sur l'évolution de cet enfant-là.
Mais que représente l'école pour l'enfant et même pour la famille? Là, je parle de vous. Vous pensez, que représente l'école pour l'enfant et même pour la famille?
Pour l'enfant, l'école, c'est sa vie. Donc, éduquer l'enfant, c'est l'aider à émerger dans sa vie. Et priver l'enfant de cette éducation, c'est fini. C'est une fois stopper sa vie. Pour la famille également. Donc, on sait que la famille, si on commençait par la famille, le père, l'enfant, père, mère et enfant, c'est ça la société directement. Donc, si on voit que c'est la famille qui est déjà la cause de ne pas peut-être éduquer l'enfant, c'est déjà un manque à gagner dans la société. Donc, la société est en train de chuter.
Et comment les déplacements dans notre région, on assiste des fois à des déplacements massifs et des populations, donc à cause de la guerre et des déplacements et tout. Comment les déplacements affectent surtout les enfants, la vie des enfants et même sur le plan émotionnel, par exemple?
Oui, merci beaucoup. Le déplacement, et comme on le voit dans notre milieu actuel ici, ça affecte beaucoup la vie de l'enfant. Parce que, vous voyez, la nature, l'homme vit selon la nature où il se trouve. Et si une fois on vous déloge de votre milieu résiduel, où vous aviez l'habitude de vivre, vous vous retrouvez, vous êtes forcé d'aller en dehors du milieu habituel. Tout doit changer. Il y a par exemple, je donne un exemple, on était au village, on a son champ, on a le moyen d'élevage, et on a la capacité, on a les possibilités d'avoir des revenus. Mais une fois quand vous êtes loin de vos moyens, là où vous aviez des ressources avec potentialité, mais c'est là où vous êtes délogé, là où vous allez vous retrouver, les conditions de vie doivent nécessairement changer. Et c'est ce qui se voit ici d'abord en province de l'Ituri, et si on voit à l'est de la RDC, c'est le même scénario qu'on est en train d'assister là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les familles sont devenus de plus en plus pauvres là. Des familles d'accueil également. Parce que on peut se dire, on va accueillir, on a la capacité d'accueillir 2-3 familles comme ça. Les revenus aussi dans votre famille où vous étiez doivent réellement être en train de baisser. Et c'est ça ce qui affecte souvent.
Donc, mais familles, pour des milliers, pour tous ces milliers d'enfants justement qui sont dans la rue, ou bien dans les rues, soit de Bounia, ou bien de l'Est, un peu de partout, hein, comme vous venez de le dire, est-ce que vous pensez que les cours à distance peuvent aider, les enseignements à distance peuvent aider quand même ces enfants à se rattraper?
Ok.
Ou bien avoir le goût de revenir peut-être à l'école un jour.
Merci beaucoup. Les cours à distance, comme on le voit, je vois qu'il serait souhaitable qu'on organise les cours à distance si on a une école aussi bien précise où on peut amener ses enfants, surtout soit en situation de rue, où ils doivent suivre les cours à distance. Mais quand je m'imagine, on fait un cours à distance, quand les enfants sont éparpillés, on n'a pas un centre où on peut identifier qu'ici, si on amenait ces enfants, ils doivent bénéficier d'un cours à distance. Organiser ça, c'est vraiment... donc, ça n'aide à rien. Donc, d'ailleurs, pour le moment, les cours à distance pour les enfants en situation de rue, les enfants qui ont des problèmes là de scolarité, tout ça, ça n'aide à rien. À moins que peut-être si on parlait des écoles là bien connues, où les enfants se retrouvent tous à l'école, et c'est là où on organise les cours à distance, parce que ça nécessite aussi une chaîne de communication, un réseau là, tout ça. Mais comme on voit les enfants, quand il n'y a même pas un réseau qui relie ces enfants avec les cours de distance, c'est vraiment difficile.
Mais vous pensez qu'en temps de crise, c'est toujours bien ou bien c'est prudent pour un parent de disposer des matériels ou bien un poste récepteur pour permettre à l'enfant quand même de suivre la radio?
Oui, ça serait très important et c'est urgent dans la mesure où la famille ou bien le parent, en déplacement bien sûr, ont cette capacité de trouver soit un poste récepteur pour que les enfants puissent bénéficier de ce cours à distance. Malheureusement, ce que nous voyons, ce n'est pas le cas. Parce que même quand vous allez voir, les parents ou bien des familles qui ne sont pas à mesure de se retrouver ou bien d'avoir un moyen un peu suffisant pour s'approvisionner de ce matériel-là. Alors ça devient tout à fait difficile.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, messieurs les journalistes.
Les amoureux de Bano Capi, nous bouclons la première partie de votre magazine préféré.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Capi ont préparé ce programme, le magazine Bano Capi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes heureux de vous retrouver après les informations pour la suite de votre magazine préféré. Bano Capi ouvre le débat aujourd'hui sur l'enseignement à distance pour les enfants déplacés comme alternative en ce temps de crise que notre pays traverse. En effet, plusieurs centaines d'enfants se retrouvent privés de leur droit à l'éducation à cause de violences qui sévissent dans l'est du pays. Dans cette seconde partie, nos invités, notamment un enseignant, un promoteur d'école et un acteur du numérique et un expert de l'enseignement en situation d'urgence, vont nous parler des possibilités pour faire de l'enseignement à distance une alternative en ces temps de crise. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa. Christian Mapindanoya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijanon.
Au Capi, encore plus d'infos.
Les amis de Bano Capi, nous sommes actuellement à Goma, une ville de la République démocratique du Congo où la vie a été bouleversée par la récente prise de la ville par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le combat a cessé, mais les séquelles sont encore bien présentes, notamment dans le domaine de l'éducation. Moudoumbi Benjamin nous en dit plus.
Ce lundi 17 février, les cours ont timidement repris dans certains établissements. Mais la présence des élèves est très faible. Beaucoup de parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école, par peur de nouveaux affrontements ou par manque de moyens. Pendant près de 3 semaines, les écoles sont restées fermées. Une situation inédite qui a plongé les élèves dans l'incertitude. Au complexe scolaire Saint-Esprit, quelques enseignants étaient présents mais avec peu d'élèves. Le deuxième trimestre s'annonce donc mal, aux yeux des enseignants, des élèves et des parents. Un désespoir semble régner quant à l'issue de l'année scolaire en cours, nous ont confié certains enseignants. Ceux-ci craignent également de ne pas être payés alors que la situation économique est déjà très précaire. Au-delà de la peur, les difficultés financières sont un frein majeur à la reprise scolaire. Les banques sont fermées, les parents n'ont plus accès à leurs comptes et s'inquiètent de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité.
Depuis 2 semaines, la guerre fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Les conséquences sont désastreuses pour la population et particulièrement pour les enfants qui ne peuvent plus se rendre à l'école. À Goma, par exemple, dans les établissements publics comme privés, les enseignants pourtant présents ne peuvent qu'attendre le retour des élèves. Les parents, effrayés par le combat, préfèrent garder leurs enfants à la maison, sacrifiant ainsi leur éducation. À ces jours, aucune mesure n'est mise en place pour assurer les enseignements aux milliers d'enfants déplacés. Grâce Vozolo s'est entretenu avec Septime Chamavo, un enseignant de l'Institut Saint-Michel de la ville de Goma, à ces sujets.
Bonjour, monsieur Septime Chamavou.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'Institut Saint-Michel à Goma, précisément dans les quartiers Katoï. Comment la crise a-t-elle affecté l'accès à l'éducation des enfants de votre établissement scolaire particulièrement et de toute la ville de Goma en général?
Comme vous le savez, le jeudi 23 janvier, que nous avons été contraints de quitter les salles de classe pour aller se reposer à la maison parce que tout le monde était déjà sous le choc à l'approche de l'arrivée des élèves de M23. Et que donc, depuis le 23 janvier, tout le monde est à la maison. Certains enfants ont été obligés de prendre la fuite. Certains sont allés vers le Rwanda. C'est là qu'il y avait les moyens, avait déjà pris l'avion pour Kinshasa. Et que donc, actuellement, c'est pas accéder à ses élèves, dès lors qu'ils ne sont pas tous à Goma. Et c'est là qu'ils sont restés sous les toits paternels. Ils sont encore sous les chocs des coups de balles qui ont crépité comme une pluie diluvienne qu'on pouvait imaginer, au moment où les éléments farnissaient, tentaient de s'échapper à l'arrivée de M23.
Au total, combien d'enfants de votre école ont été déplacés?
Actuellement, on ne sait pas dire combien sont partis dès lors que les activités n'ont pas repris. Les enseignants arrivent à l'école parce que les autorités provinciales nouvellement établies avaient lancé l'appel à la reprise des activités. Mais ce que nous constatons, c'est que les enseignants arrivent, ils sont au service, mais les élèves, eux, n'arrivent pas. Ils sont toujours chez eux.
En tant qu'enseignant, quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer la continuité de l'éducation pour ces enfants?
Écoutez, comme vous le savez, les banques et les coopératives sont jusqu'à aujourd'hui fermées. Et que donc, tenter une telle entreprise, ce serait une chose difficile. Dès lors que les enseignants eux-mêmes n'ont pas accès à leur salaire, ils n'ont pas la possibilité de payer les frais de transport. Et que donc, dû qu'à la date d'aujourd'hui, on peut mettre en place une mesure en faveur des élèves déplacés, c'est impossible parce qu'aucun enseignant ne va les encadrer.
Et pensez-vous que l'enseignement à distance pourrait être une solution pour les enfants déplacés?
Je pense que lorsque vous parlez de l'enseignement à distance en faveur des enfants déplacés, je me dis que c'était une sorte de moquerie envers ces enfants qui vivent dans des tentes et d'autres ne savent pas à quel c'est voué. Alors je ne sais pas comment quelqu'un qui vit sous une tente, dans des bâches, pouvait accéder à un enseignement à distance. Il n'a aucun outil, aucune chaîne de télévision, ni même dans la vie du Goma. Les gens n'ont pas de poste récepteur avec eux. Je pense que parler de l'enseignement à distance dans la situation qui prévoit actuellement à Goma, ce serait penser une chimère. C'est impossible.
Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour pallier à cette situation, surtout pour sauver l'éducation de ces enfants qui sont déplacés?
Ce qui doit être fait, c'est que les banques doivent ouvrir leurs portes, les coopératives doivent fonctionner et ça va permettre à tous les partenaires éducatifs de pouvoir disposer des moyens qui leur permettent d'abord de payer les frais de transport pour les enfants. Les enseignants auront les transports. De plus, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a faim de pouvoir se tenir devant les élèves. pendant combien de temps. Et donc, je pense que la seule condition qui s'impose, c'est de permettre que les banques puissent ouvrir, que les coopératives fonctionnent et toute l'économie va devoir booster les restes des activités.
Quelles considérations donnez-vous aux enseignements à distance?
Lorsque je dois faire une analyse par rapport à la situation de la ville de Goma, vous allez constater que 3 sur 10 élèves ont accès aux outils informatiques. Peu d'élèves ont de l'électricité chez eux. Alors, lorsque nous parlons de l'enseignement à distance, c'est que nous pensons à ces élèves qui viennent de familles nantis et qui disposaient auparavant des moyens nécessaires, des moyens qui leur permettent de pouvoir accéder à ces enseignements. Sinon, vous allez demander à un enseignant d'aller devant son écran, à la télé ou à la radio, enseigner pour n'accéder à aucun élève. Ce sera donc de la peine perdue si on pouvait entrevoir une telle possibilité dans les conditions qui sont les nôtres. Et puis, vous savez que lorsqu'on a donné des enseignements à distance, les évaluateurs vont se dire que ces enseignements avaient été dispensés. Pourtant, ils n'ont pas atteint tout le monde. Ce qui va de nouveau discriminer ces enfants qui sont déplacés et ceux-là qui viennent de familles pauvres.
Quels sont les défis à relever pour mettre en place un tel dispositif? Par exemple, le matériel didactique, la formation des enseignants, les suivis des élèves, et j'en passe.
Les défis, c'est que nous sommes dans l'obligation construire nos écoles. Comme vous le savez, l'État congolais n'a pas d'école. Ce qu'on appelle l'école publique, ce sont des écoles qui se comptent au bout des doigts. Et que donc, ce sont les privés qui organisent l'enseignement dans la quasi-totalité. Alors, vous n'allez pas dire à un promoteur dans les conditions actuelles de pouvoir disposer des outils là où tout est bloqué. Alors, et donc, dans la ville de Goma, personne n'est en mesure d'entrevoir les possibilités à la dans ce genre. Les outils, si on doit y penser, il faut que l'État tire des leçons de la situation que nous sommes en train de traverser pour comprendre que dans une situation comme celle qui prévaut aujourd'hui, on doit disposer de ces outils dans les écoles. C'est-à-dire que nous devons doter de nos écoles privées comme publiques des outils en termes de bibliothèques, des machines, ordinateurs, ce que nous n'avons pas dans nos écoles. Voilà les défis dans lesquels nous sommes confrontés.
Et comment rendre l'enseignement à distance plus efficace et bénéfique pour les enfants déplacés?
Pour que ces enseignements soient bénéfiques et efficaces, il faut que toutes les familles, y compris les familles pauvres, puissent avoir accès à l'électricité. Avec un tel accès, tout le monde peut avoir la possibilité de brancher son poste récepteur parce que tout le monde n'a pas de téléviseur. Il faut que l'État comprend que sans électricité, la vie sera toujours difficile dans les domaines de l'enseignement apprentissage pour ces enfants qui viennent des familles pauvres.
Quel message pouvez-vous lancer aux autorités du pays, aux enseignants, aux parents, mais aussi aux enfants qui sont dans cette situation difficile?
Aux autorités, nous demandons ceci, que l'on prête une attention particulière à la proposition qui a été proposée par la CECO et les CC. Je pense que les façons de voir pourraient nous permettre de sortir de la crise, sinon la voie des armes a montré des limites. Et que donc, il faut que l'on trouve une solution dans l'urgence qui va nous permettre d'évacuer nos occupations sans peur. Parce qu'actuellement, il y a des parents qui ont peur d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils savent que la peut dégénérer à tout moment. Au niveau des enseignants, nous leur demandons de prendre leur mal en patience. Le temps que la situation va redevenir au calme, nous allons devoir mettre les bouchées doubles pour que nous puissions finir l'année, c'est-à-dire nos prévisions comme cela avait été prévu au début. Et aux parents qui, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas envoyer les enfants à l'école, de comprendre que rester à la maison, ce n'est pas une solution. Il y a possibilité de rencontrer tous les partenaires et entrevoir la possibilité de continuer les enseignements dans les conditions qui sont sur les terrains.
Et aux enfants déplacés?
Aux enfants déplacés, tout ce que nous devons dire, c'est de leur faire comprendre que la situation qui prévaut ne va pas trop durer. Avec l'aide du Très-Haut, ils vont devoir retrouver leur toit paternel et il faut continuer les activités malgré les chocs parce qu'au vu des cadavres dans les trottoirs, au vu des engins militaires qui traînent dans les quartiers, en cas tout le monde a peur, on ne sait pas si des promenades au quartier pourraient permettre à tout le monde de survivre. Mais ils doivent comprendre que si l'État avait pris la question au sérieux, on peut tout régler et la situation va devenir normale.
Messieurs Septime Chamavou, nous vous remercions pour avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.
Amoureux et amis du magazine Bana Okapi, votre magazine se poursuit. L'enseignement à distance est mieux que rien, mais il n'offre pas de services inclusifs pour tous les enfants en besoin de l'éducation. C'est ce qu'estime Arsène Tungali. Il est promoteur d'une école privée à Goma et acteur évoluant dans les secteurs du numérique. Plusieurs conditions doivent être réunies avant de penser à la réussite d'une telle entreprise dans notre pays. Arsène Tungali s'est entretenu au téléphone avec Christian Mapendano à ce sujet.
Monsieur Arsène Tungali, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes promoteur d'une école privée, mais également vous évoluez dans le secteur du numérique. Nous savons que votre école se trouve dans la ville de Goma et aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui sont déplacés. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli cette situation en tant que promoteur d'une école?
Bon, vous savez, nous nous occupons de l'éducation des enfants et comme toutes les autres écoles dans la ville, nous également avons été affectés. Et ce qui nous a affectés, ce n'est pas juste une situation qui a affecté les enfants, mais ça a affecté toute la population de Goma et les adultes. C'est plusieurs familles qui se sont déplacées. Et quand les familles se déplacent, cela veut dire qu'ils portent avec leurs enfants. Malheureusement, ça n'a pas été dans de bonnes conditions parce que c'est pressé, c'est un déplacement en situation de guerre. Donc, ce n'est pas que les gens se déplacent avec gaieté de cœur, mais ils sont obligés de partir pour se préserver. Et donc, c'est dans la même logique que nous avons décidé, comme toutes les autres entreprises dans la ville, nous avons fermé l'école et avons informé aux parents que nous réouvrirons les activités dès que la situation se sera améliorée. Les nouvelles autorités de la ville ont demandé à toutes les écoles de rouvrir depuis la semaine passée, ce que nous avons fait. Mais il y a eu une rentrée vraiment trop lente parce que les parents hésitaient encore à pouvoir envoyer les enfants. Mais nous sommes heureux de confirmer qu'en ce jour ici, l'école est entièrement opérationnelle.
L'école est opérationnelle, ça c'est dans la ville de Goma, mais nous avons des enfants déplacés. Pensez-vous que l'enseignement à distance pourrait être une alternative pour ces enfants qui sont encore en déplacement aujourd'hui?
Alors, ce serait bien, bien beau de le dire comme ça si on vivait dans un pays avec des infrastructures bien en place. Alors, je suis un acteur évoluant dans le secteur du numérique. Quand on parle de l'éducation à distance, moi, je vois des gens qui sont connectés à Internet. Ça, ce sont les élèves d'un côté et les enseignants de l'autre côté, chacun devant un ordinateur. Vous allez être d'accord avec moi que pendant la COVID, nous avons essayé dans les pays développés en Occident. Ça a été possible parce qu'il y a une connexion Internet et accès à un ordinateur dans presque tous les ménages. Et donc, les enseignants de leur maison pouvaient réunir tous leurs élèves dans une salle, que ce soit via Zoom ou bien une autre plateforme. C'était plus ou moins facile. Mais en RDC, cela n'a pas été facile, même pour les familles qui étaient nanties et qui ont des enfants qui étudient dans les écoles, on va dire, des meilleures écoles de la cité. Parce que les parents pouvaient acheter les mégas, les enseignants aussi de leur côté. Mais ça n'a pas été possible pour tous les enfants. Et donc, il y a certains qui étaient affectés et qui n'ont pas pu suivre les cours pendant cette période. Et même ceux qui avaient essayé, avec la perturbation des connectivités. Donc, ce n'était vraiment pas idéal. Vous pouvez être dans une salle de classe. Pendant quelques minutes, les uns sont perdus parce que leur connexion a été coupée. Et donc, cela n'a pas rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais ça, je le dis, c'était dans les meilleures écoles de la cité. Mais les autres écoles publiques ou les écoles où vont les enfants à faible revenu, on ne peut même pas réfléchir sur une idée comme celle-là. Et donc, c'était pratiquement difficile pendant la période de la COVID. Faute de questions de connectivité. La RDC est actuellement connectée à autour de 27% seulement de sa population et la majorité d'entre elles utilisent le téléphone mobile. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est à autour de 57% de la population congolaise. Alors maintenant que nous parlons d'une situation de guerre où les enfants ne sont pas dans leur maison, ils sont par-ci, par-là, certains dans des camps de déplacés, d'autres sont toujours en mouvement. Je trouve qu'il est pas idéal, même c'est inconcevable même de penser à une possibilité d'entreprendre une éducation en ligne parce que ça ne passe pas par Internet. Ça, ce sera difficile ou carrément impossible pour la plupart d'entre eux.
La radio Capi a, lors de la COVID, organiser des enseignements à distance. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la radio peut jouer un rôle important dans cette démarche Et surtout qu'elle est suivie partout, même dans les villages. Et on n'a pas besoin nécessairement d'Internet pour suivre la radio.
Il faut parler de l'éducation à la radio. Regardez un peu. Quand Radio Capi dit qu'il fournit de l'éducation à distance, ça veut dire que c'est un programme qui concerne tous les enfants de la RDC. Et qu'importe leur niveau, qu'importe la classe, qu'importe les matières qu'ils avaient déjà suivies avant, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que chaque classe a un programme. Lorsqu'il y a eu interruption des cours, en première maternelle, il parlait de ceci. En deuxième maternelle, il parlait de ceci. En troisième maternelle, il parlait de ceci. Et ce n'est pas la même matière qui était en train d'être enseignée dans l'école X. Chez nous, au complexe scolaire Mabingwa, on avait un programme spécifique. Une autre école avait un programme spécifique pour ce jour-là. Alors, quand à la radio, de manière générale, on se décide de pouvoir enseigner, ce sera difficile d'avoir un programme qui sera accessible à tout le monde. Par contre, la formation à la radio, le seul avantage que cela peut avoir, c'est que les enfants, et ça encore une fois, c'est ceux qui ont la possibilité d'accéder à un poste de radio, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ceux qui auront accès, ils pourront juste se détendre. Ce ne sera pas une formation ou un accès, on ne va pas appeler ça académique, mais ce sera peut-être juste une façon pour les enfants de rester en contact avec la matière. Mais on ne peut pas se dire qu'on va avoir un programme national qui est suivi par la radio et qu'à la fin de ce programme, on puisse avoir des points ou des diplômes ou des brevets ou des bulletins à remettre à ses enfants. Donc, ce ne sera vraiment pas un programme qui sera suivi de manière rigoureuse comme cela devrait se passer dans une salle de classe. Et c'est tout ceci qui m'amène encore une fois à rappeler que la guerre, c'est très mauvais. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas souhaiter. J'apprécie que les organisations ou que la structure nationale de l'éducation responsable de l'enseignement puissent réfléchir sur ces possibilités avec ses partenaires. Mais ce ne sera pas quelque chose qui sera fait de manière rigoureuse où tous les enfants n'auront pas accès. Et donc, ce ne sera vraiment pas inclusif. Mais c'est mieux que rien. Et donc, ce sera une façon pour pouvoir garder ceux qui auront la possibilité de pouvoir écouter en contact avec la matière.
Et au regard de tout ce que vous venez d'évoquer là, est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qu'on peut mettre en place pour rendre l'enseignement à distance au moins efficace et que ce soit réellement profitable aux enfants, surtout aux déplacés?
Il y a beaucoup de préalables sur lesquels il nous faut travailler. Déjà, on n'a même pas l'électricité. Comment les enfants vont suivre la radio sans courant électrique? Là, on parle des déplacés de guerre. C'est des gens qui vivent pour ceux qui ont déjà été à Goma, dans les camps de déplacés, les types de conditions dans lesquelles les gens sont en train de vivre. Et donc, ce n'est pas une situation idéale comme à la COVID où les gens sont confinés dans leur maison et où ils peuvent être à l'aise devant leur poste de radio. Mais ça, c'est des gens qui sont en mouvement à cause de la guerre. C'est un enfant qui est peut-être à l'extérieur en train de jouer. La maman est en train de chercher quelque chose à manger. Le papa est en train de faire aussi peut-être la même chose. Et donc, ce sera même difficile pour les parents de pouvoir bien s'entretenir avec leurs enfants pour les aider à pouvoir être focalisés à un certain moment pour suivre la radio. Les enfants déjà qui sont déplacés, c'est difficile qu'ils soient à un seul endroit pour suivre les émissions radio préenregistrées. Et les parents ne seront pas en mesure de pouvoir les accompagner parce qu'ils sont préoccupés par la survie. Les gens, quand ils sont en déplacement comme ça, c'est des questions de survie tout d'abord. Donc, les questions éducationnelles, les autres questions importantes, pourtant, seront reléguées au second plan. C'est une question de survie tout d'abord. Alors, s'il faut donner un conseil aux acteurs qui seront impliqués dans de tels programmes, c'est de ne pas les décourager. Allez-y, il y aura possibilité qu'il y ait deux ou trois enfants dans une région ou dans un coin spécifique qui pourront, de manière hasardeuse, tomber sur une émission de la radio au Capi et ils pourront peut-être suivre une ou deux leçons, mais cela ne garantit pas qu'ils pourront suivre la prochaine leçon. C'est mieux que zéro, mais à la fin du programme, on ne peut pas dire que les enfants seront évalués et qu'ils auront des points et que ceci pourra compter à leur éducation formelle à la fin de l'année.
Merci, Monsieur Arsène Tungali. Je rappelle que vous êtes promoteur d'école, mais également vous travaillez dans le secteur du numérique.
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste.
Au Capi, oh, 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 oh.
Le magazine Banokapi se poursuit. Le programme d'urgence sont élaborés afin de répondre aux besoins immédiats des enfants déplacés en leur offrant des opportunités même dans le contexte d'instabilité. Il y a également la réhabilitation des infrastructures scolaires, la protection et les droits de l'enfant qui font partie des stratégies nationales du gouvernement pour l'éducation en situation d'urgence. Suivant ces mesures, tout enfant déplacé doit continuer de bénéficier d'une éducation de qualité. Nous en parlons avec Monsieur Rigobert Matondonguela, expert en éducation et formation, coordonnateur national en charge de l'éducation et de la formation, Fédération nationale des éducateurs sociaux du Congo, FENECO, UNTC en sigle. Il est joint ici par Rachel Kessembangu. Monsieur Rigobert Matondonguela, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui la politique du gouvernement concernant l'éducation des enfants déplacés? Des mesures spécifiques sont-elles prévues pour faciliter leur scolarisation et quelles sont ces mesures?
Oui, le gouvernement de la République démocratique du Congo a de mesures pour faciliter la scolarisation des enfants déplacés, mais il a d'abord la politique en matière d'éducation de ces enfants qui visent généralement à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants, indépendamment de leur situation de déplacement. Nous savons qu'il y a plusieurs origines de ces déplacements, notamment il y a les problèmes de la guerre, il y a les problèmes de conflits communautaires, mais aussi il y a d'autres problèmes de catastrophes naturelles. C'est ce qui fait que le gouvernement tient à ce que tout enfant congolais, déplacé ou pas, puisse avoir ou bénéficier d'une éducation de qualité. Alors, pour ce faire, le gouvernement a trouvé des mesures spécifiques, notamment par rapport à l'accès. Il s'efforce à faciliter l'accès de l'éducation pour tous les enfants, y compris ceux qui sont déplacés en raison des différentes situations, conflits communautaires, conflits armés ou alors catastrophes naturelles. Il essaie de prendre aussi des mesures de collaboration avec les ONG nationales comme internationales et les agences internationales pour fournir des ressources supplémentaires à la formation et un soutien en la matière d'éducation pour les enfants déplacés. Il y a aussi des problèmes de programmes d'éducation d'urgence. Chez nous, il y a toute une stratégie qui est en train d'être élaborée en ce qui concerne la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence, c'est-à-dire pendant la situation de crise, il y a des programmes d'urgence qui sont élaborés et afin de répondre aux besoins immédiats des enfants déplacés en leur offrant des opportunités d'apprentissage, même dans les contextes instables. Il y a également la réhabilitation des infrastructures scolaires. Quand les enfants se déplacent, le gouvernement essaie de travailler à la réhabilitation des infrastructures scolaires en orientant, par exemple, les enfants dans des écoles qui existent déjà dans la zone de déplacement, mais ou alors, si les enfants sont dans les camps, ils essayent de mettre en sur place des abris ou des infrastructures scolaires temporaires pour que les enfants puissent bénéficier des enseignements comme autrefois. Il y a également un problème de protection et de droits de l'enfant. Le gouvernement veille à ce que chaque enfant qui est déplacé puisse être protégé, mais aussi bénéficier de l'éducation qui est un droit pour cet enfant-là. C'est pourquoi il y a vraiment la lutte contre les pratiques qui peuvent entraver l'accès des enfants déplacés à l'école. Donc, le gouvernement fait vraiment fournir des efforts pour que tout enfant puisse être à l'école et bénéficier des apprentissages.
Monsieur Matondo, l'enseignement à distance est-il envisagé comme une alternative ou un complément à l'enseignement traditionnel en cas de nécessité?
Oui, effectivement. L'enseignement à distance, pour nous, est envisagé d'abord comme une alternative, mais aussi comme un complément d'enseignement de l'enseignement traditionnel, et cela pour plusieurs raisons. L'enseignement à distance permet aux apprenants de suivre les cours à leur propre rythme et selon leur propre emploi du temps. Ça, c'est dans le cadre de l'alternative. Cela peut être particulièrement bénéfique pour par exemple, le personnel. Il offre des possibilités d'accès à l'éducation pour des personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas se rendre dans une salle de classe, mais aussi l'enseignement à distance utilise des outils numériques qui peuvent améliorer l'apprentissage dans les vidéos, par exemple, des forums, des devoirs et exercices interactifs. Cela permet également d'accéder aux ressources éducatives. Et nous disons aussi que l'enseignement à distance, en cas de crise comme des pandémies COVID-19, l'enseignement à distance a permis de maintenir la continuité pédagogique, évitant ainsi l'interruption des apprentissages pour les apprenants. Il y a aussi comme mesure l'intégration de l'enseignement à distance dans les systèmes éducatifs traditionnels. Et là, nous voyons que ça encourage des approches pédagogiques innovantes ou alors des approches mélangées entre enseignement à distance et aussi l'enseignement traditionnel pour que chaque étudiant ou chaque apprenant puisse bénéficier de ces apprentissages. Cependant, il est important de reconnaître certaines limitations de l'enseignement à distance telles que le manque d'interaction sociale, les défis technologiques ou techniques, mais aussi à la nécessité d'une bonne autonomie chez l'apprenant. En somme, pour nous, nous envisageons que cela puisse être complémentaire, que l'enseignement à distance complète l'enseignement traditionnel pour que chacun, pour que l'enfant puisse bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de l'une ou l'autre méthode.
Quelle importance le ministère de l'EPST accorde-t-il à l'enseignement à distance?
Le ministère de la République, notamment le ministère de l'Éducation en République démocratique du Congo, reconnaît l'importance ou accorde l'importance, une importance capitale à l'enseignement à distance. Parce que nous pouvons dire, par exemple, que pendant la COVID, c'est grâce à cet enseignement que les enfants ont quand même étudier pendant qu'on ne pouvait pas se mettre ensemble. Donc, l'importance de l'enseignement à distance dans ce contexte a fait qu'il permette de garantir la continuité de l'instruction, même en période de crise, lorsqu'il est difficile de se tenir ensemble en présentiel. Cette approche a aussi le mérite d'offrir l'accès à l'éducation pour les apprenants vivants dans les régions éloignées ou dans les zones où les infrastructures scolaires sont insuffisantes. Il y a aussi la flexibilité d'apprentissage. L'enseignement à distance permet aux apprenants de progresser à leur propre rythme, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des besoins éducatifs spécifiques. C'est-à-dire que lorsque l'enseignant a enseigné, mais si, par exemple, son enseignement se trouve dans un support donné, l'élève peut accéder à ce support même à l'absence de l'enseignant.
Mais comment contrôler ou savoir si l'enseignement à distance est efficace? Comment évaluer cet enseignement?
C'est là où il y a un peu de difficulté, parce que pour évaluer le résultat de l'enseignement à distance, comme à l'époque de COVID, cela dépend de nombreux facteurs, y compris l'accès à la technologie, la capacité d'adaptation des enseignants et des apprenants, mais aussi les ressources disponibles. Si certains aspects sont prometteurs, il reste aussi des problèmes qu'on devra un peu améliorer. Par exemple, dans l'enseignement à distance, pour atteindre un étudiant ou un apprenant, il faudrait quand même que cet apprenant puisse avoir aussi les outils nécessaires pour que cet enseignant-là puisse être à mesure. Mais il est parfois difficile s'il n'y a pas un retour. On peut donner des exercices, on peut donner des devoirs, on peut donner des interrogations, mais si, par exemple, le matériel ne fonctionne pas correctement, alors là, il y a aussi un problème. En ce qui concerne la qualité des cours à distance, ça varie également considérablement. Certains enseignants ont réussi à adapter leur méthode pédagogique pour maintenir un enseignement élevé aux apprenants. Tandis que d'autres enseignants ont trouvé cela plus difficile, entraînant donc une diminution de l'interaction et la participation des étudiants. Donc l'évaluation doit être un sujet qui doit être maîtrisé par l'apprenant, mais aussi maîtrisé par l'enseignant.
L'enseignant.
Donc ce qui signifie que l'autonomie de l'enseignant est privilégiée, mais ça doit être contrôlé par l'enseignant. Ce qui fait que l'évaluation ou les méthodes d'évaluation ont également, doivent évoluer. Et les ressources doivent être aussi adaptées pour faciliter cette évaluation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment des questionnements, mais aussi les réponses qui doivent faire en sorte qu'on comprenne que l'enfant a suivi le cours ou il n'a pas suivi le cours.
Pour finir, quel rôle doit jouer l'État dans le contrôle de la qualité des enseignements à distance?
Oui, l'État doit jouer un rôle très, très important. D'ailleurs, c'est le rôle de premier plan. D'abord, l'État doit s'assurer que l'enseignement à distance est maîtrisé par les enseignants. Également, si les enseignants ont élaboré des ressources nécessaires pour que les apprenants apprennent convenablement, mais aussi pour que les retours, c'est-à-dire l'évaluation, puisse se faire avec rationalité. Le gouvernement, pour contrôler, doit savoir former tous les acteurs éducatifs ayant une portion de responsabilité dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance. Ce qui signifie que les inspecteurs doivent être bien rodés, bien formés, les chefs d'établissement doivent être bien formés, les enseignants doivent être bien formés et que ces enseignants forment très bien aussi les apprenants par rapport à cette innovation qui est l'enseignement à distance. Mais nous voulons dire ceci, que l'enseignement à distance aujourd'hui est une nécessité incontournable. Donc, nous demandons à l'État de pouvoir mettre vraiment du sérieux dans l'organisation de cet enseignement à distance, mais de fournir aussi des outils nécessaires dans les écoles pour que les apprenants et les enseignants puissent utiliser à bon escient les technologies et l'information de la communication, utiliser en bon escient tout le matériel nécessaire pour concourir à un apprentissage inclusif et de qualité, et que l'apprentissage tout au long de la vie puisse être au rendez-vous pour les enseignants et pour les apprenants.
Monsieur Rigobert Matondonguela, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
C'est ici que s'achève ce numéro du magazine Bana Okapi consacré au droit à l'éducation des enfants déplacés. Une question cruciale, l'enseignement à distance peut-il être une alternative viable pour ces enfants privés d'école? Tout au long de cette émission, nous avons donné la parole aux principaux concernés, les jeunes, les parents, les responsables d'école et un expert de l'éducation en situation d'urgence. Les témoignages et leurs analyses ont mis en lumière les défis et les opportunités de l'enseignement à distance. Nos experts ont exploré en profondeur cette approche en détaillant ses avantages et ses inconvénients. Ce magazine a été le fruit d'un travail d'équipe. Un grand merci à Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Grasso Vezolo, Rachel Kessembangu et André Kitenge pour leur contribution. La coordination de ce programme a été assurée par Christian Mapendano, Yacris, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Moufelele Dijano. La mise en onde était assurée par Diedoné Nyangasa. Sarah Soumbela vous a présenté ce magazine. Retrouvez-les sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, et sur la page Facebook Bana Okapi. Ciao et à la prochaine.